Voix est libre, l'émission de l'association Picassoft qui s'est donnée pour mission d'héberger des services libres et respectueux de la vie privée, de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et à une approche libre, éthique et inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, on fait la deuxième émission sur Matrix, sur les applications de messagerie et surtout sur les protocoles de communication. Donc la première émission qu'on a fait à ce sujet nous a permis de vous présenter le contexte actuel des applications de messagerie et puis les enjeux de sécurité, de liberté d'usage, de protection de la vie privée qui étaient associés. On a vu les soucis relatifs à la gouvernance des données, à l'opacité de ces systèmes, à la fragilité de ces systèmes aussi, donc qui sont peu résilients, et puis aux impacts sur les choix des utilisateurs quant à leurs usages de ces applications. On a présenté aussi la différence entre les applications de messagerie et puis ce que c'est qu'un protocole de communication. Et on a poursuivi l'émission en vous présentant le protocole de communication Matrix. Pour cette émission, j'étais avec Julien. Et pour cette deuxième émission, je suis toujours avec Julien et je suis aussi avec Romain. Salut à vous deux.
Salut.
Salut Audrey.
Alors Julien, c'est toi qui as bossé, hein, qui a tout préparé pour cette deuxième émission. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu des principes de Matrix, nous redire un petit peu comment on avait fait pour comprendre comment fonctionne ce protocole de communication, pourquoi quels sont ces enjeux. Enfin non, on avait déjà expliqué les enjeux de la décentralisation, l'interopérabilité, etc. Mais est-ce que tu veux nous repasser un petit coup sur les principes de Matrix?
Oui. En fait, Matrix, du coup, c'est un nouveau protocole qui se propose de mettre en place des communications décentralisées. C'est à la base un projet qui a été initié par un étudiant et un professeur à l'université de Cambridge en 2013 et qui ensuite en fait, a donné lieu à une entreprise qui s'appelle New Vector et une fondation qui s'appelle The Matrix Foundation. Et l'idée initiale de Matrix, c'est elle peut tenir en quatre idées fondamentales qui sont en premier lieu donner un peu plus de pouvoir aux utilisateurs sur leur communication, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent être en capacité de comprendre comment le système fonctionne, de pouvoir faire des choix adaptés à leur utilisation et de pouvoir en fait savoir où sont stockées leurs données. La seconde idée principale de Matrix, c'est aussi d'avoir des communications entièrement décentralisées. C'est-à-dire que, comme dans le cas des mails, il n'y a pas de serveur qui soit une autorité sur les autres, en quelque sorte. Il y a juste des serveurs qui travaillent entre eux et les personnes sont libres de pouvoir changer de serveur. Ensuite, ça doit être un protocole qui se veut ouvert, c'est-à-dire que les personnes peuvent proposer de nouvelles fonctionnalités ou implémentations, ou plutôt spécifications du protocole, peuvent créer leur propre implémentation de clients et de serveurs, et peuvent ensuite avoir un serveur qui est fédéré avec les autres serveurs. Et d'un point de vue logiciel, Matrix voulait être aussi une spécification en fait, d'interface qui respecte la philosophie du KISS, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui soit « keep it stupid and simple », ouais, qui soit simple, compréhensible pour tout le monde et qui juste simplement fonctionne en fait.
D'accord. Donc on va essayer de rendre ça particulièrement compréhensible pour tout le monde en expliquant un petit peu plus donc les détails techniques de Matrix, de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, comment on commence à l'utiliser, etc. Mais avant ça, on va faire un petit état des lieux de l'utilisation de Matrix, voir que c'est déjà pas mal utilisé. Romain, est-ce que tu as quelques données à nous donner là-dessus?
Alors, si on voulait résumer Matrix en quelques chiffres, on va essayer de faire ça. C'est déjà un projet assez jeune, puisqu'il a été initié en septembre 2014 à l'université de Cambridge par Matthew Hodgson. Désolé pour ma prononciation. Il y a 10 millions de comptes, dont 20 000 actifs quotidiennement. Et la version 1 est sortie en juin 2019. Il y a aujourd'hui 20 000 serveurs, donc c'est pas mal. Et 70 entreprises qui fonctionnent sur Matrix. On a aussi l'État français qui s'est mis à Matrix via par exemple la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Et on a aussi Mozilla qui a quitté IRC, donc un autre protocole de communication, en janvier pour utiliser Matrix avec le client Riot et le service d'hébergement de modular.im.
D'accord. Donc ouais, on voit bien, hein, Matrix, c'est un protocole qui est donc déjà bien éprouvé. utilisé par énormément d'entreprises et donc aussi dans le public également. Maintenant, on s'attaque au dur, on s'attaque à la technique. Julien, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'architecture globale de Matrix, de ses caractéristiques techniques, et puis pour comprendre voilà, un petit peu mieux comment ça fonctionne concrètement?
Ok. Du coup, pour parler de Matrix, on va tout d'abord revenir sur la notion de protocole rapidement. On avait vu dans l'émission précédente la notion de protocole et là aussi les notions de client et de serveur. L'idée dans des communications, c'est que généralement les utilisateurs vont utiliser des clients qui sont des logiciels, vont interagir avec des serveurs qui vont ensuite, qui sont aussi d'autres logiciels sur des machines distantes. Ils vont ensuite en fait interagir entre eux pour pouvoir fournir des messages. Chez Matrix, enfin, dans le cas de Matrix, on a en fait une spécification qui est ouverte et qui définit plusieurs interfaces entre à la fois les clients et les serveurs, et le protocole on va dire d'usage des utilisateurs, et une interface entre les serveurs qui est, on va dire, on va appeler le protocole de fédération des serveurs. Ce à quoi on va s'intéresser principalement aujourd'hui, puisque c'est de la notion en fait un peu plus d'usage, ça va être la notion, enfin ça va être plutôt l'interface client-serveur, mais l'interface et la spécification de celle-ci pour le serveur-serveur est aussi importante. Trix en fait a pas mal évolué du début de l'initiation du projet jusqu'à en fait 2019, comme l'a dit Romain. Et maintenant, la spécification est considérée comme en fait fiable et sortie de bêta. C'est-à-dire que généralement, ils sont arrivés à un consensus, un bon consensus en fait sur les spécifications qui permet de les utiliser, d'avoir des implémentations qui sont stables et qui ne les cassent pas en fait assez souvent. Voilà. Du coup, pour ces notions de protocole, en fait, il y en a. Du coup, on a parlé de serveur et on a parlé de client. En fait, de manière plus générale, dans le cadre de Matrix, on a quatre concepts importants à avoir en tête pour comprendre le fonctionnement de celui-ci au niveau des acteurs. On a tout d'abord l'utilisateur, c'est-à-dire la personne qui veut juste utiliser le système de communication. On a le client, c'est-à-dire le processus qui va interagir avec un serveur. C'est aussi appelé. On parle aussi d'appareil en fait, parce qu'on va dire je vais directement utiliser mon ordinateur, je vais directement utiliser mon smartphone pour pouvoir interagir avec Matrix. On a la notion de salle de conversation, en fait, qui va permettre à plusieurs utilisateurs de communiquer entre eux. Et on a la notion de serveur. Du coup, c'est jusqu'à maintenant ce qu'on a parlé de serveur. Qu'on nomme aussi home server dans le cas de Matrix, en fait.
D'accord. Et donc, comment est-ce que tu relis tous ces concepts-là entre eux?
Alors, si on doit un peu schématiser de comment est-ce que ces choses fonctionnent entre elles, tout d'abord, en fait, les utilisateurs, pour pouvoir utiliser Matrix, doivent être inscrits sur un home server. C'est-à-dire que, dans le cas, par exemple, des mails, moi, je suis obligé d'avoir un hébergeur de mes mails, par exemple, le serveur de mon université, le serveur de mon entreprise, ça peut être le serveur d'une organisation quelque chose qui est un serveur hôte et qui va en fait s'occuper de stocker les informations de mes communications. On doit ensuite aussi avoir du coup un appareil pour pouvoir communiquer avec le serveur. On peut en avoir plusieurs et cet appareil-là va être important aussi dans qu'on va avoir dans la suite pour les communications. Et en fait, c'est à peu près tout. On n'a rien besoin de plus parce que les utilisateurs en fait ils vont interagir avec le serveur et les serveurs en fait vont interagir entre eux. D'un point de vue de l'usage, on a juste besoin d'avoir ça. Fonctionnement. Ça, c'est un aperçu très haut niveau de ce qu'on a besoin d'avoir, c'est-à-dire pas forcément tellement plus d'un point de vue de l'usage que une application comme WhatsApp. On a un appareil, on a une application, dans le cas, c'est un client qu'on peut choisir, et on interagit avec le reste du monde en envoyant des messages.
D'accord. Et donc l'envoi de ces messages-là donc va passer donc si on prend comme d'hab Alice et Bob un message qui sera envoyé d'Alice à Bob va passer donc Alice va utiliser son client pour interagir avec son serveur hôte enfin le serveur hôte sur lequel elle est inscrite. Son message va ensuite transiter vers le serveur hôte de Bob, qui va recevoir le message d'Alice via son propre client, Bob, c'est ça? À peu près l'idée en gros.
C'est ça, en fait, l'idée c'est que s'il y a deux personnes qui communiquent ensemble, ces personnes-là ne sont pas forcément obligées d'être sur le même serveur. Si j'envoie par exemple, dans le cas des mails, si j'envoie un mail à un collaborateur, enfin quelqu'un qui travaille ailleurs, on n'est pas obligé d'être dans la même entreprise, d'être sur le même serveur. L'idée, c'est qu'on envoie un message en fait à quelqu'un via les serveurs et les messages sont stockés sur les serveurs respectifs, les serveurs respectifs des correspondants.
D'accord, ok.
Voilà.
Et c'est sécurisé tout ça?
En fait, c'est sécurisé. L'idée de Matrix, en fait, c'est de reposer sur l'existant, c'est-à-dire que là où les mails ont leur propre protocole, leur propre spécification et sont, pour entrer un peu dans le détail, sont en fait dans la septième couche du modèle OSI, c'est-à-dire vraiment la couche applicative. Matrix, en fait, va se reposer sur un protocole qui est le protocole du web qui s'appelle HTTP. Et plus précisément sur HTTPS, version sécurisée et plus récente, maintenant utilisée du protocole, pouvoir en fait faire transiter les messages de serveur en serveur. L'idée, c'est que quand on envoie un message, en fait, avec par exemple, moi j'envoie un message ou Alice envoie un message avec son smartphone à Bob, Alice va tout d'abord, en fait, avec son. Alors ça, c'est de manière transparente, Alice va pas la faire, mais le message d'Alice va être chiffré grâce à l'appareil d'Alice. Avant d'être envoyé au serveur hôte. Ensuite, son serveur hôte va s'occuper de stocker le message, du coup, qui est chiffré, qui n'est pas lisible par exemple l'hébergeur, sur le serveur. Va ensuite l'envoyer en fait à l'autre serveur grâce à HTTPS et toute la couche applicative qui existe en fait d'Internet. C'est un simple message qui va être envoyé, juste une requête en fait comme une requête qu'on pourrait faire pour accéder à un site. Le message va être reçu par le serveur hôte de Bob. Ce serveur va s'occuper aussi de stocker ce message qui est toujours chiffré sur son serveur, qui ne pourra pas être par l'hébergeur ou par qui d'autre, par qui que ce soit, si ce n'est Bob. Bob reçoit le message sur son appareil et c'est son appareil qui s'occupe de déchiffrer le message pour l'afficher à Bob.
Ok. Et donc, bon, là, je te crois parce que moi, je te fais confiance. Je me dis que tu me racontes pas de bêtises, mais en vrai, comment est-ce qu'on peut assurer que l'hébergeur du serveur hôte d'Alice ne peut pas lire les messages d'Alice?
Alors ça, c'est une bonne question. En gros, l'idée, c'est que le chiffrement repose sur chiffrement des messages sous matrice, pour simplifier, repose essentiellement sur une notion de clé privée et clé publique. Chaque personne, en fait, dispose de deux clés, sa clé privée et sa clé publique. La clé publique va être transmise au monde entier. Ça va permettre, en fait, aux autres personnes d'envoyer les messages à cette personne-ci. Et la clé privée va être gardée secrètement par la personne, et elle ne va être jamais diffusée. L'idée, c'est que les personnes vont chiffrer les messages avec la clé publique du destinataire, et le destinataire va déchiffrer les messages avec sa clé privée. Ainsi, en fait, n'importe qui peut envoyer un message à n'importe quelle autre personne, en étant sûr que, en fait, cette personne-là est la seule personne qui puisse déchiffrer le message.
Ok, d'accord. Alors c'est vrai que c'est des notions qui sont pas évidentes à expliquer comme ça à la radio, sans schéma, sans plus d'aide visuelle que ça, parce que c'est assez complexe, mais tu as quand même expliqué clairement. Je pense qu'on mettra les liens éventuellement après sur le site de la radio avec des ressources qu'on a chez Picassoft qui permettent de bien comprendre clairement ces notions-là avec des schémas, des BD, je pense à GPGX par exemple. On mettra ça, mais en effet, ouais, c'est ce que tu explique, c'est que la sécurité, donc le chiffrement, est bien assuré de bout en bout grâce à ce système de clés publiques et privées entre les utilisateurs, et donc que les serveurs, donc les intermédiaires, ne peuvent absolument pas voir le contenu des messages qui sont échangés.
Donc, qu'est-ce qui différencie Matrix des autres clients-serveurs qui utilisent le chiffrement?
Alors, c'est une bonne question. Par exemple, dans du coup, Matrix, c'est pas forcément quelque chose qui est nouveau dans l'idée de des communications. Il y a quelque chose qui a été qui est devenu assez populaire au cours du temps, qui s'appelle le chiffrement des mails, par exemple, dans le cas. Dans le cas des mails, ça. Ah. Il y a quelque chose qui est devenu assez populaire dans le temps, qui est en fait le chiffrement des mails, et qui permet en fait de communiquer de manière sécurisée des informations par mail entre deux destinataires. C'est quelque chose qui repose sur l'utilisation de chiffrement asymétrique. Et du coup, on pourrait se demander en fait quel est l'avantage de Matrix quand il y a ça déjà qui existe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce protocole-là, il est bien, mais il n'est pas totalement sécurisé. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive à, par exemple, craquer un message qui a été chiffré, cette personne peut généralement avoir accès à des informations sur la clé privée et déchiffrer tous les autres messages que les personnes ont, enfin, en tout cas, une partie des messages que les personnes ont pu s'envoyer. Dans le cas de Matrix, en fait, on va utiliser des clés temporaires qui vont permettre de chiffrer les messages temporairement.
Ouais, c'est-à-dire que ce sont c'est pas comme les clés publiques et privées qui, elles, sont permanentes et qui ne changent jamais. Là, ça va être des mécanismes de chiffrement qui, vont être valides sur, des petites périodes de temps. Et donc, ça apporte une sécurité en plus.
En fait, l'idée, c'est qu'on part de les clés publiques et privées vont permettre en fait de générer des clés qui vont être utilisées une seule fois pour transmettre des messages et qui ne seront plus jamais utilisées.
D'accord.
Et dans ce mécanisme-là, en fait, si un message est corrompu ou si on arrive à en quelque sorte craquer une clé, on ne pourra pas en fait derrière obtenir les autres clés qui permettent de déchiffrer les messages. C'est qu'on a un mécanisme qui est bien plus complexe de génération de clés et puis de synchronisation de réception de messages qui permet en fait d'avoir un système qui soit plus sécurisé au niveau des communications et du chiffrement.
Donc on a un espèce d'empilement de clés qui restent quoi et de clés uniques. C'est un truc comme ça.
C'est ça. En fait, l'idée, c'est que on a une clé, par exemple, une clé unique. Enfin, une clé qui va être à utilisation en quelque sorte unique qui va être générée, qui va chiffrer un message, et que le message est reçu par le destinataire. Ce message en fait va déclencher en quelque sorte la génération d'une autre clé pour la personne qui va l'utiliser pour envoyer un message. Et à chaque fois en fait on a un mécanisme qui garantit que ces clés-là sont nouvellement créés et ne peuvent pas être en fait reforgés au cours du temps et ne peuvent pas en fait et les messages en fait s'ils sont craqués ne permettent pas de craquer ensuite en cascade les messages qui ont été envoyés avant et les messages qui seront envoyés ensuite.
D'accord, ok, je comprends. Ça permet d'isoler à chaque fois les petits mécanismes de chiffrement qui font que si, enfin, ça fait que si il y a une corruption quelque part, ça ne met pas en péril tout le système et tous les autres chiffrements, c'est ça?
Ça.
Ok, donc énormément de la sécurité a été pensée de fond en comble sur Matrix. À ce moment-là, donc on a bien compris qu'on pouvait y aller, on peut s'envoyer tout ce qu'on veut, ça ne sera pas déchiffré. Donc, à partir de là, maintenant qu'on a compris ça, est-ce que tu veux nous détailler un petit peu plus la nature les différentes natures de serveurs qui existent sur Matrix et puis les différents clients qui nous permettent d'utiliser ce protocole?
Oui. On disait tout à l'heure que Matrix était ouvert. Et en fait, l'ouverture de Matrix et les spécifications permet d'avoir plusieurs implémentations des serveurs et des clients. C'est-à-dire que les hébergeurs n'ont pas un seul choix unique du logiciel qui va tourner sur leur serveur pour permettre aux utilisateurs de se connecter au réseau. Dans le cas en fait, des implémentations de serveurs, il y a une implémentation de référence qui s'appelle Synapse et qui a été créée en Python. C'est la référence en fait historique qui a été utilisée principalement depuis les débuts. C'est pas la plus performante ni la la plus performante ou la celle qui en fait permettrait d'avoir une meilleure résistance aux scalabilités, qui est la plus testée actuellement. Il faut savoir qu'il y en a d'autres qui sont en train d'être créés. Je crois qu'il y en a, par exemple, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à développer des implémentations en Rust parce que c'est un langage qui est relativement qui est assez bas niveau et qui est aussi assez performant. Et pour ça, en fait, il y a du coup des choses qui s'appellent des SDK, qui sont en fait en quelque sorte des kits d'aide de développement pour permettre aux personnes qui sont écrites en fait en différents langages, permettre aux personnes de réaliser leur propre implémentation de serveur.
D'accord, ouais. Donc c'est vrai, c'est ce qu'on disait pendant la première émission, hein. Comme ce sont que des logiciels libres et puis des formats ouverts, ça permet absolument tout type de personnalisation ensuite, et même dans différents langages, etc. Donc vraiment en fonction des besoins, des envies que l'on a, on peut personnaliser, on peut créer, adapter des serveurs et des clients si on en a les compétences ou si on connaît quelqu'un qui en a les compétences, quoi.
C'est ça. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour les clients, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul client, il y en a une multitude. Et c'est d'autant plus intéressant parce que c'est quelque chose, en fait, qui va permettre aux utilisateurs d'avoir des formats variés de communication en fonction de leur machine. Il peut y avoir juste, par exemple, des clients qui vont utiliser des terminaux qui peuvent être utiles. En fait, dans certains contextes professionnels, on a accès qu'à des ressources réduites de communication. Des clients qui vont être, par exemple, graphiques, un client web qui peut être accessible directement depuis un navigateur, ou des clients, par exemple, sur des smartphones qui sont forgés, par exemple, pour les iPhones, qui sont forgés, par exemple, pour certains types de matériel. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, pareil, dans les clients, il y en a une grande multitude, en fait. Mais il y a une référence majeure qui est Riot, et qui est en fait, pareil, la première implémentation de client historique de Matrix. Il faut savoir que
D'accord.
du coup, il y a une version qui est disponible pour Android, une version qui est disponible aussi pour iOS, et une version web qui est accessible en ligne. Il y a une version avancée de Riot qui s'appelle Riot X qui est en train d'être développée. L'idée, c'est d'avoir une refonte de l'application Android pour avoir en fait une plus grande stabilité et une meilleure performance, même si aujourd'hui elle est quand même relativement stable.
Ok, d'accord. Donc une diversité de clients comme ça. Et en plus de cela, ce qu'on disait aussi, ce que tu expliquais pendant la première émission, c'est que le client que l'on va choisir sur notre smartphone, par exemple, peut tout à fait être utilisé à côté d'autres applications de messagerie, et puis que Matrix permet en fait d'interagir donc avec les applications existantes. Mais alors concrètement, comment est-ce que c'est possible ça? Comment est-ce que ça fonctionne? Quelle est la fonctionnalité ou le composant, le truc en particulier de Matrix qui fait que ce protocole-là peut interagir avec les applications que l'on connaît déjà?
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, comme tu as très bien dit, c'est que les applications en fait qui existent aujourd'hui sont des applications qu'on utilise en parallèle de Matrix essentiellement. C'est quelque chose qui, enfin, les applications en fait sont utilisées en parallèle et il n'y a pas d'interopérabilité entre elles. Matrix en fait peut être utilisé juste en fait en quelque sorte juste en dehors de ces applications de messagerie. Mais il y a quelque chose qui permet en fait d'utiliser aussi les applications de messagerie existantes via Matrix. Il faut savoir, c'est que du coup, ces applications ne permettent pas de fait une interopérabilité avec d'autres systèmes, mais Matrix essaye de mettre en place ces interopérabilités par quelque chose qui s'appelle les ponts. On parle aussi de bridge en anglais, qui font en fait le lien entre du coup, Matrix, qui est un protocole un peu plus, on va dire, un peu plus large, et des applications, on va dire, un peu plus en silo, de l'autre côté. Il y a, sur Matrix, pour le moment, c'est quelque chose qui est en train pas mal qui est en phase d'expérimentation. Il y a pas mal de choses qui se développent. Il y a essentiellement quatre types de ponts qui existent pour les différentes applications et qui vont, en fait, sont assez différentes. Parce que les applications qui sont utilisés aujourd'hui pour les communications sont plus ou moins en fait enclins à être interopérables. Les applications les plus populaires, par exemple WhatsApp ou Messenger, sont moins interopérables de fait, mais il y a d'autres logiciels comme par exemple IRC qui était situé au tout début, qui en fait propose des même Slack, je crois, qui propose plus facilement des interfaces avec leur messagerie, avec leur système de messagerie. Du coup, en fait, là pour le moment, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Mais l'idée, c'est que avec un client, du coup Matrix, qui peut être en fait un client blanc choisi, on pourrait communiquer avec des personnes qui utilisent des applications déjà existantes. Et du coup, c'est en fait en quelque sorte la porte qui permet de transiter entre des applications qui sont indépendantes et qui travaillent de leur côté en silo, vers des applications en fait qui travaillent ensemble et permettent aux différentes personnes de communiquer selon un standard connu de tous et ouvert.
Ok, ouais, bah oui,
Voilà, mais c'est
super,
quelque chose
nickel.
qui est encore assez expérimental et qui va vraiment en fait dépendre en quelque sorte des applications. Ça va être de l'adaptation en fait fine. Il y a des ponts qui sont un peu plus de l'ordre de comment on dit ça, du hack, au sens faire quelque chose qui marche
Ok, c'est
et
bricolé.
faire plutôt que faire, ouais, avec l'existant, plutôt qu'essayer de trouver une solution qui soit assez générique et puis qui puisse être testée et qui soit bien interopérable. Ça encore, c'est du cas par cas, mais c'est en construction.
Ok, ouais, c'est des ponts sur mesure, quoi. Mais donc, si j'ai bien compris, en fait, ouais, tout à l'heure, je me trompais quand je disais qu'on pouvait avoir un client Matrix installé sur notre smartphone à côté de toutes les autres applications. En fait, l'objectif de ça, justement, c'est d'avoir d'avoir un client Matrix d'installé et puis de ne pas avoir besoin d'avoir toutes les autres applications d'installer sur le téléphone, puisque via ce client Matrix, on peut utiliser. Par le biais des bridges, des ponts dont tu parles, on peut utiliser les autres applications dont tu parlais. Donc, hein, et on est plus obligé d'avoir toutes les applications installées sur le téléphone pour pouvoir communiquer avec les personnes qui ont installé ces applications-là, mais on peut utiliser le client de Matrix justement pour toujours être en mesure de parler avec les personnes qui utilisent donc une diversité d'applications.
C'est ça.
Ok, super. Bon, alors écoute, ça c'est un point très important de Matrix. J'en oublie un. Il nous reste une dernière chose à voir par rapport au concept de message sur Matrix. Alors comment est-ce que tu veux nous aborder ça? Je te laisse dire le mot important pour dire que les messages sur Matrix, c'est plus que des messages, c'est ça?
Ça. En fait, l'idée, c'est que du coup, on disait que les applications aujourd'hui marchent bien parce que elles proposent on va dire une expérience une expérience sympa. Dans le cas d'Instagram, bah, ça va être le fait de pouvoir voir plein de photos variées sur même des vidéos sur des personnes, des business, des équipes, enfin un peu tout ce qu'on veut, des paysages, des choses comme ça. Et c'est pas juste des messages qui sont simples, des messages textuels. Il y a vraiment en fait en quelque sorte un média qui passe avec. Ça va être des photos, ou en tout cas un message structuré. Et en fait, dans le cas de Matrix, la majorité des messages qu'on s'envoie, sont essentiellement des messages textuels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Matrix propose quelque chose d'un peu plus large que les messages, qui s'appelle les événements. Et en fait, les messages sont dans Matrix un type particulier d'événements. Et Matrix, en fait, laisse le choix en fait de la création de nouveaux événements pour les interactions entre les utilisateurs. C'est-à-dire que Matrix en fait propose minimalement des types de messages et des types d'événements pour faire fonctionner le protocole, mais laisse derrière la place en fait aux personnes, si elles ont envie, de créer leur propre type d'événement pour pouvoir créer en fait leurs propres applications. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en fait, on peut envoyer des simples messages de texte, mais on pourrait se dire en fait on va construire typiquement, à la place de juste une application de messagerie, on pourrait construire en quelque sorte un espèce d'Instagram décentralisé sur Matrix, où pour cela on définit un nouvel événement qui est par exemple un événement avec des photos avec des filtres, des hashtags qui sont attachés, pour avoir en fait à peu près la même expérience qu'on a avec Instagram, et en fait dans un protocole qui soit ouvert. Ça, c'est par exemple quelque chose qui est possible avec Matrix. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que généralement, les solutions qu'on avait jusqu'à là, qui étaient alternatives, en fait, ne proposaient pas aussi d'avoir cette expérience intéressante que fournissent les applications que l'on connaît aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est encore aussi quelque chose qui est mentionné dans la spécification, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose encore qui a été exploré en détail. Voilà.
Ouais, en effet, non, mais ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que tu vois, cette notion de liberté laissée aux utilisateurs quant à la nature de leurs interactions et à la nature des interactions entre les médias justement échangés, ça, je le connaissais surtout par rapport aux faits divers. On en a parlé déjà dans La Voie Libre, hein, le fait de pouvoir, par exemple, faire interagir des posts de Mastodon avec des vidéos de Peertube. Enfin voilà, le fait de pouvoir faire interagir différents médias dans la fédération, ça, c'est quelque chose déjà de très impressionnant. Puis de très encourageant pour utiliser ce média-là, de dire qu'on est libre d'imaginer après différents types d'interactions entre différents médias. Et donc ça existe aussi sur Matrix, justement, où on s'est dit, bon, bah, on sait qu'on a la possibilité de créer des événements, donc tout type d'interactions que l'on peut imaginer, et donc pas que des messages textuels, et ça, ouais, c'est une super piste. Donc après, là, l'idée, c'est de dire, ben, selon ce que vous pouvez imaginer comme interaction, comme événement, eh bien, implémentez-le, puisqu'en plus, c'est possible, c'est en libre, c'est en format ouvert, donc la porte est ouverte, quoi.
C'est ça. L'idée, en fait, c'est que ça peut être utilisé pas forcément pour des communications entre personnes. Ça peut être en Matrix, par exemple, je crois que l'entreprise s'appelle New Vector. Développe aussi Matrix pour que ça soit utilisé dans l'IoT. C'est-à-dire que on pourrait y avoir en fait plein de. C'est un scénario qui donne, mais on pourrait avoir en fait plein d'appareils qui communiquent entre eux. Et Matrix pourrait être un format standard de communication entre appareils. Et dans certains cas, par exemple, s'il y a des appareils qui communique des informations sur un certain format, bah, il pourrait spécifier un nouveau type d'événement pour que ces appareils puissent marcher entre eux sur Matrix, en fait. L'idée, c'est vraiment qu'il y a en quelque sorte une brique commune avec des messages simples textuels. Et derrière, si les gens veulent faire en quelque sorte un format qui leur est propre, qui leur convient pour leur application, ils le peuvent, en fait. Il faut juste qu'ils aient des clients qui permettent en fait d'afficher cette information sous la bonne forme. Enfin,
Ok.
c'est en fait c'est quelque chose ce qui est vraiment intéressant pour ça, même aussi pour les informaticiens, les développeurs, se dire que Matrix peut vraiment être vu comme une espèce de couche super assez versatile, où vraiment en fait on peut faire des communications avec entre plein d'entités différentes dans des formats en fait assez variés, et c'est ensuite libre à chacun d'interpréter le format de ce qui est envoyé à sa façon. Ouais,
D'accord,
donc
ouais. Oh, pardon, Romain, oui, je t'en prie.
Donc au-delà d'être un protocole de communication entre utilisateurs, c'est un protocole de communication tout simple, quoi, vraiment
C'est ça.
entre tout.
C'est ça,
Et
en fait.
c'est
Oui, vas-y.
ouais, c'est juste au client d'être créatif, quoi.
C'est ça, en quelque sorte, c'est ça. En fait, Matrix avait été pensé pour que ce soit quelque chose, en fait, un mode de communiquer décentralisé pour des personnes. Mais en fait, maintenant, il travaille dans le cadre plus large d'un protocole décentralisé de communication, mais pour que ce soit des objets, que ce soit beaucoup de choses en fait, des serveurs, de tout ce qu'on veut. C'est quelque chose qui est vraiment versatile, et je pense que c'est quelque chose aussi qui est vraiment intéressant d'un point de vue logiciel aussi, pas d'un point de vue en fait juste communication utilisateur. Mais ça, c'est quelque chose en fait, j'ai essayé de réfléchir moi à des applications qui seraient intéressantes, mais typiquement dans le cas de dans le cas d'objets ouais, un peu connectés ou d'objets qui sont typiquement, par exemple pour tout ce qui va être météo, s'il y a besoin d'avoir des communications, quelque sorte de pair à pair entre des stations, ça pourrait être en quelque sorte un. Alors c'est pas vraiment pair à pair, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait y ressembler en fait. Pas avoir quelque chose qui soit uniquement client-serveur, ça pourrait être en quelque sorte un peu plus du client-client, mais voilà, enfin, c'est quelque chose je trouve qui est aussi intéressant.
D'accord, oui, quelque chose qui soit encore plus sur le modèle distribué, donc. Et puis après, ouais, sur différents types de clients, après, c'est vrai qu'on peut tout imaginer puisque l'implémentation de clients est aussi libre. Donc, après, la forme que peut prendre un événement, je vais y arriver, peut être très, très diversifiée. Et puis, en fonction de la perception qu'on va avoir. J'imagine, après, il y a des applications aussi en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Après, il n'y a pas de limite, quoi, hein, sur le type d'interface que l'on peut
C'est
avoir,
ça.
justement. Ok, bon, bah super, écoute, tu nous as fait un tour là super complet de Matrix. Je ne sais pas si tu veux nous faire un petit récap avant de voir comment on peut commencer à utiliser Matrix, donc.
Voilà. Du coup, je pense que s'il faut retenir quelque chose de Matrix, c'est que Matrix propose en fait une spécification ouverte d'interface entre d'un côté des clients et des serveurs, et de l'autre côté des serveurs et des serveurs. L'idée, c'est de proposer un moyen de communiquer qui soit décentralisé, qui ne repose pas sur un seul acteur ou sur un seul serveur, typiquement, mais sur plusieurs serveurs qui sont fédérés entre eux. C'est un protocole qui est adapté pour en fait, les communications entre personnes, communications textuelles, mais qui, de manière plus générale, permet en fait, d'avoir quelque chose qui permet de publier des données avec des événements et de, du coup, ensuite, derrière, avoir un stockage des données qui soit chiffré sur des serveurs. Et avoir une réception ensuite de ces données par une personne ou par plusieurs personnes. C'est vraiment quelque chose qui est assez générique. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas un seul point de contrôle sur tout ça. C'est juste en fait une spécification libre à chacun de rejoindre le réseau en fait en choisissant une implémentation et en l'hébergeant. Et en fait, le reste tourne, quoi.
D'accord. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour commencer à utiliser Matrix?
Alors pour si vous voulez utiliser Matrix à titre personnel pour pouvoir envoyer des messages à d'autres amis et commencer à utiliser le réseau, en fait c'est pas très compliqué. Il y a essentiellement six choses à faire rapidement. Il y a du coup tout à l'heure on parlait de serveur hôte. Ça va être en fait quelque chose qui va être la première chose à regarder, ça va être essayer de trouver quel serveur hôte sera intéressant pour rejoindre le réseau. C'est-à-dire que là où sur par exemple WhatsApp. Tu t'inscris en fait avec ton numéro de téléphone, tu n'as pas vraiment le choix. Là, il faut choisir un serveur sur lequel s'inscrire. Il y a beaucoup de serveurs qui existent dans le monde. Il y en a un qui est principalement utilisé, qui est le serveur de Matrix. Mais le mieux, c'est d'utiliser en fait un serveur qui est hébergé par des gens, alors idéalement des gens qu'on connaît, ou par un serveur qui par exemple peut être hébergé en Europe. Il y a plusieurs, il y en a un qui s'appelle Conversé.io, par exemple, qui a été un des premiers lancés et qui est hébergé par une petite entreprise qui fait de l'hébergement en France. Voilà, du coup, première étape, c'est de trouver un serveur hôte pour pouvoir rejoindre le réseau. La seconde étape, du coup, ça va être créer un compte sur ce serveur hôte à travers, grâce à en fait, une interface web ou un client de Matrix. Pour les clients de Matrix, il y a l'interface web de Riot qui est assez bien faite, qui plus permet de réagir aux messages avec des emojis. Il y a pas mal de choses qui existent déjà avec cette interface. Du coup, c'est celle qui est en fait de référence et que je recommande, qui marche bien, mais il y a plein de clients qui existent. Vous pouvez éventuellement aussi, on n'en a pas trop parlé, mais s'enregistrer sur un serveur d'identité. C'est quelque chose qui permet en fait aux autres personnes de découvrir que vous êtes sur le réseau avec. Par exemple, votre adresse email ou votre numéro de téléphone, si vous l'indiquez. C'est libre à chacun de s'enregistrer, en fait, mais ça peut être intéressant si vous voulez découvrir des personnes que vous connaissez sur Matrix. Et ensuite, vous pouvez ensuite juste créer des salles de chat ou directement envoyer des messages à des personnes sur Matrix. Pour cela, en fait, les clients mettent en place des options pour créer facilement des groupes de chat sur lesquels les communications sont chiffrées. Et ensuite, derrière, ce que vous avez à faire, c'est essentiellement de discuter avec d'autres personnes et voilà. Et juste de pouvoir échanger comme vous faites d'habitude avec les autres applications.
Ok, bon, c'est super intéressant. merci pour tous ces éclaircissements sur Matrix. Et c'est l'heure du quiz. Donc la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui permet à Matrix d'être interopérable avec les applications de messagerie existantes? Donc la première réponse, ce serait le chiffrement des messages. Ensuite, on a les bridges, donc les ponts. Ensuite, on a les serveurs d'identité. Et enfin, on a les événements.
Ok, bah écoute, on se laisse un petit temps de réflexion pour répondre à cette question. Pendant ce temps-là, on va écouter cette semaine Night de Cloud Kicker et c'est en licence CC BY. Bonne écoute! De retour de la voie libre, Romain, dis-nous, qu'est-ce qui permet donc à Matrix d'être interopérable avec les applications de messagerie que l'on connaît?
Eh bien, la bonne réponse était les bridges, donc les ponts, qui permettaient à plusieurs applications de messagerie de communiquer entre elles. Et donc, du coup, Julien, peut-être un petit mot pour la conclusion?
Oui, alors sur les deux épisodes qu'on a pu avoir. L'émission de la voie libre, on a pu tout d'abord parler des protocoles et des messageries existantes pour les communications. Et ensuite, on s'est un peu attelé à expliquer qu'est-ce qu'était Matrix, ce que Matrix permettait et comment utiliser Matrix. En résumé, Matrix est un ensemble de spécifications ouvertes d'interface entre clients et serveurs pour des communications décentralisées. Matrix peut être utilisé entre des personnes pour pouvoir communiquer, mais de manière plus générale entre des applications, des appareils, des logiciels, et met en place les chiffrements des messages et des types de messages différents qui peuvent être adaptés en fonction des applications et des utilisateurs. Il faut savoir, c'est que Matrix est un permet d'avoir des communications qui sont décentralisées mais qui sont aussi sécurisées et propose en fait quelque chose qui soit interopérable avec l'existant et n'est pas juste quelque chose qui vient superposer à ce qui existe déjà.
Ok Julien, bah, merci beaucoup pour toutes ces explications et puis pour l'envie que tu donnes d'aller essayer ce moyen de communication-là. On espère que ces deux émissions vous auront donné envie effectivement de tester, d'aller voir et puis on l'espère après de pouvoir laisser libre cours à votre imagination pour implémenter des nouveaux clients, des nouveaux types d'événements, d'interactions. Et puis, on verra ce que ça nous laisse avoir. Mais eh bien, écoutez, on se retrouve pour une prochaine émission en attendant. Et merci à tous les deux, Julien et Romain.
Merci à toi. Bah,
merci
et
à
merci
toi.
Julien.
Et
merci
puis,
à toi aussi.
À la prochaine, bonne journée.
À la prochaine.
Bonne journée.
Salut.